Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements ne servent qu'aux vivants qui ne meurent pas. Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité digne d'adoration. Le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans ses actes qui tous oscillent entre sa bienveillance, sa miséricorde infinie vis-à-vis de ses créatures, celui qui a tout créé sans besoin et à qui tout reviendra. Et c'est lui qui reprend ce qu'il a donné, subhanahu wa ta'ala, pour ensuite récompenser, jalla wa ala. Entre ceci et pour récompenser les uns et les autres, un jour proche, tout ce qui doit arriver, c'est comme si c'est déjà arrivé. Le passé, le présent, le futur sont pour lui la même chose, subhanahu wa ta'ala. Le purifié, l'exempt de tout défaut, le parfait. C'est lui qui, étant parfait, parle. Allah a parlé, subhanahu wa ta'ala, et sa parole est réel, comme les gens de la Sunna et de la Jama'a y croient et ne nient aucun de ses attributs sublimes, subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas acquis quoi que ce soit après avoir créé, jalla wa ala. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre et contre les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Et celui qui est privé de sa guidée, tu ne le trouveras ni sur la terre, ni dans les cieux, ni ce qui est entre les deux. De guide. Puisse-t-il bénir le meilleur des hommes qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, sans besoin. Mohammed ibn Abdillah, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans le droit chemin. Par lui, il a ouvert les yeux à l'aveugle. Il a guidé l'égaré. Il l'a envoyé comme miséricorde pour les univers. Ensuite, mes frères et sœurs, remercions Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous avoir fait vivre ce mois béni. Moi, pendant lequel Allah a envoyé sa parole incréée qui est le Coran. Il a envoyé sa parole incréée qui est le Coran, comme il est dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens et critère de distinction entre le bien et le mal. Traduction approximative et sens de ce verset. Allah dit également, subhanahu wa ta'ala, nous l'avons envoyé dans la nuit bénie. Allah a envoyé le Coran dans une nuit bénie, comme on le verra tout à l'heure, incha'Allah. Ce Coran, c'est quoi? C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a envoyé, a fait descendre ce Coran pendant le mois de Ramadan, comme il a fait descendre sa parole dans des livres avant lui, qu'il a donné à Moussa, alayhi salatu salam, la Torah, l'évangile, l'injil, qu'il a donné à Isa, alayhi salatu salam, le Zabour, les psaumes qu'il a révélés à Daoud, alayhi salatu salam. Cela lui est facile. Il a voulu, jalla wa ala, dans sa miséricorde, dans sa sagesse, parfaire ses bienfaits sur cette communauté, la meilleure société pour les gens. Il a voulu, par le Coran, le conserver, comme il le dit dans le verset 9 de la sourate 15. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr, ici c'est le Coran, et c'est nous qui nous chargeons de le conserver. Aucun autre n'a pu être conservé parce que sa sagesse l'a dicté. Alors que tous les prophètes sans exception ont été envoyés, tous les prophètes, exception faite de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont été envoyés à leur peuple, Allah a voulu que les livres envoyés avant lui soient leur loi et ce que ça concernait, bien sûr, autre que le dogme, qui ne saurait changer. Tous les prophètes sans exception ont été envoyés pour appeler les gens à l'adoration d'Allah, le seul digne d'adoration, celui sans qui rien ne se réalise, le pur, subhanahu wa ta'ala, sans défaut. Mais quant aux faits et gestes concernant la vie des différentes communautés et la miséricorde qu'il a envoyée à certains à une époque bien particulière, ceci a pu changer. C'est pour cela que l'évangile a été donné à Jésus et Isa alayhi salatu salam pour venir adoucir quelques règles mosaïques données à Moussa alayhi salatu salam. Et Allah est miséricordieux. Allah a voulu que ces livres soit valable pendant leur temps, du temps des prophètes, alayhi salatu salam, et le temps que Allah aura voulu. Mais depuis l'avènement de l'islam sous sa forme définitive, Allah a voulu que dans ce Coran, tout y est. L'essentiel de la Torah, de l'évangile, des psaumes, et tout le bien pour les hommes, les djinns, et tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se passe de tout. Et ce Coran, Allah a voulu que rien ne puisse le toucher. Walilahilhamd, entre autres exemples, qu'Allah fasse miséricorde, au professeur Hamidullah, qui disait qu'en seule Turquie, en 1970, il y avait plus de 100 000 personnes qui connaissaient le Coran par cœur. Qu'Allah les bénisse. Le professeur Hamidullah nous dit, les personnalités, les personnes choisies par Allah, khasatu, ahlullah wa khasatu, ce sont les gens du Coran, ceux qui l'ont appris, ceux qui l'ont compris et ceux qui l'ont mis en pratique. Et comme il a dit ailleurs, dans la sourate du Jumu'ah, l'exemple qu'il a donné aux gens qui ont porté le livre et ensuite qui ne l'ont pas appliqué, qui ne l'ont pas compris, qui l'ont mis de côté, il les a comparés à des ânes qui portent un fardeau. L'âne ne sait même pas ce qu'il porte. Quand le Coran a été révélé, bien entendu, Allah l'a protégé, il n'a besoin de rien. Il l'a mis dans le cœur des hommes qui savent ce que c'est. La parole est lourde. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, si nous avions, dans la sourate 59, si nous avions fait descendre ce Coran sur la montagne, tu l'aurais vu s'affaisser de crainte d'Allah. C'est ce que l'on met à côté, dans les voitures pour les protéger, ou sur des tombes, ou acheter à 2 euros le service de quelqu'un qui va te lire la Fatiha. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Il n'a pas été envoyé pour cela. Il n'a pas été envoyé pour cela, il a été envoyé pour parfaire les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ces pauvres créatures, pécheurs que nous sommes, parmi les hommes et par les djinns, afin que notre comportement soit le meilleur et que par nous, Allah subhanahu wa ta'ala sauve l'humanité. En réalité, subhanahu wa ta'ala, c'est par sa faveur sur nous, au travers de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au travers de l'envoi du Coran sur son cœur, par les moyens qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala, c'est au travers de ça que Allah parfait ses bienfaits sur cette humanité. Le Coran, certainement, est aussi, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, guidé. Révélé pour guider les gens, leur montrer le chemin, et également pour les guider sur ce, quand ils sont sur le chemin. Les croyants bénéficient de cette double guidée, vers le chemin et sur le chemin. Et Allah a expliqué dans le Coran, il y a tout ce dont nous avons besoin. Allah l'a conservé, en a fait une guérison. Ma fi soudour, une guérison pour le cœur. Une guérison pour le cœur. Et on se rappelle parfois de cette notion fondamentale que malheureusement quand nous sommes possédés, Allah seul sait qui n'est pas possédé parmi nous, par son shaitan, qu'on appelle ruqya, on va appeler un qui va casser des œufs comme on vient de me le dire tout à l'heure tout en lisant le Coran. On ne se rappelle d'Allah que dans le malheur, on a oublié Allah. Et encore, on compte sur qui? Est-ce que tu connais pas un bon raqi? Et tu crois que c'est quelqu'un qui guérit? C'est Allah seul qui guérit, subhanahu wa ta'ala. Par la Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les gens qui croyaient sincèrement en lui, il les a choisis pour accompagner le meilleur des hommes. Ils étaient en voyage, et la seule lecture, qu'Allah me pardonne quand je dis seul, la lecture de la Fatiha, celle qui ouvre le livre, avec ça, Allah a guéri un non-musulman qui avait été mordu par un scorpion, par un serpent, comme s'il n'y avait plus de traces. Notre Seigneur est généreux et sa parole est vraie. Il suffit quand une chose, il veut qu'elle soit, il suffit qu'il dise soit, et la chose elle est. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mes frères, mes sœurs, la miséricorde d'Allah est infinie. On ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Qu'il soit loué, subhanahu wa ta'ala, il l'est, par tous ceux qui savent louer. L'obéissance des obéissants n'est due qu'à lui et cela prouve sa louange et mérite plus de louange. La désobéissance des désobéissants prouve que c'est la louange lui appartient. Il est le patient, subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence, par excellence. Tout ce qui arrive procède de sa science, sa sagesse, et il est juste. C'est lui qui a honoré le mois de Ramadan parmi tous les autres mois et y a mis une nuit meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr, la nuit de la mesure, on traduirait. La mesure, la nuit du destin, la nuit de la détermination, la nuit de la destinée, peu importe comment on l'appelle. Laylatul Qadr, meilleure que 1000 mois. Pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, comme sa miséricorde et sa sagesse l'a dicté, mettre cette nuit dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. 2 avis parmi tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon a juré que cette nuit était le 27. C'est l'avis de certains savants, dont le cheikh Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quand tu rassembles tous les hadiths, l'avis le plus fort dit Ibn Hajar al-Asqalani, le commentateur al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'avis le plus fort, c'est que c'est l'une des 10 dernières nuits. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti un soir. Il est sorti un soir, et Jibril alayhi salam l'a rencontré. Il lui a dit, ce que tu cherches. qu'Allah bénisse ce prophète, ses compagnons, sa famille et tous ceux qui l'ont suivi dans le droit chemin, nous compte parmi eux. Quand Allah a révélé ce qu'il a révélé, une nuit meilleure que 80, que 1000 mois. Les calculateurs ont dit que c'était plus de 83 ans d'adoration. Peu importe la raison pour laquelle ça a été envoyé, cette scène, ça ne peut être qu'une miséricorde pour nous tous. Le prophète est sorti. Quand il a reçu ça, il est rentré les 10 premiers jours de Ramadan pour faire la retraite spirituelle et itikaf. Pour ne pas en sortir, recherchant cette nuit, elle vaut le coup, mes frères et sœurs. Pour celui qui croit en Allah et espère en lui, subhanahu wa ta'ala, le rencontrer et sur sa récompense le jour du jugement dernier. 10 jours, il ne sortait pas de la mosquée. Il est ressorti, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a rencontré Jibril alayhi salam et il dit, ce que tu cherches, toi et tes compagnons, c'est plus tard, c'est après. Et il est rentré les 10 jours du milieu. Et il est ressorti la fin de la 20e journée. Et il a rencontré à nouveau Jibril et Allah est miséricordieux. Autrement, il nous aurait laissé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui a informé que ce qu'il cherche, c'est encore après. Donc dans la dernière décade, dans les 10 derniers jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ce qui m'a été, j'ai vu la nuit d'Al-Qadr. Laylat al-Qadr, on me l'a montré. Et ensuite, quand il est venu informer les musulmans, il a trouvé 2 musulmans en train de se chamailler. Et on lui a fait oublier. Par politesse, il a dit indéfiniment, on lui a fait, de façon indéfinie, on m'a fait oublier, et c'est du bien pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Allah avait voulu, il nous aurait montré Laylat al-Qadr à chacun. Si Allah avait voulu, il nous aurait affirmé que c'était le 27, ou le 25, ou le 21, ou le 23, ou le 29. C'est du bien pour vous. Allah est généreux. Non seulement en cherchant dans les 5 nuits impaires, et si tu rajoutes encore les 5 autres pères, tu auras la récompense des 10 nuits, mais de surcroît, tu seras certain, tu es assuré qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder le bénéfice de la nuit, donc dans le qadr. Il est généreux. Il nous oblige, par la prière, par le jeûne, par ce qu'il veut, à devenir mieux que ce que nous méritons. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé dans sa sagesse, surtout sa miséricorde, flou, cette notion, quel jour c'est. Celui qui veut se contenter du 27, comme malheureusement beaucoup de musulmans aujourd'hui, en train d'amener à manger, à boire, et faire du haram parfois, la nuit, parce que, paraît-il, quand tu veilles la nuit, dans le cadre, tu vas pas mourir. Est-ce que quelqu'un de sensé peut croire à ça? Malheureusement, c'est ce qu'on entend. Et certains y croient. Ça n'a pas été fait pour ça. Que faisait le prophète cela? Quand les 10 dernières nuits arrivaient, il s'écartait de son lit, il veillait la nuit et il réveillait sa famille. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime du bien pour la personne. La fin du hadith que j'avais commencé, le prophète m'a dit, c'est du bien pour vous. Je me suis vu cette nuit en train de... Je me suis vu en rêve en train de me prosterner dans la boue. Bien sûr, bien que les alcools ne soient pas étanches, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faite de feuilles de dattier et de palmiers, etc., était beaucoup moins étanche. Celui qui rapportait ce hadith, il a dit, j'ai vu la nuit du 20 au 21, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorti de la mosquée avec de la boue sur son front, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit que c'était le 21. Il se peut qu'il ait plu une autre nuit et qu'il s'est prosterné dans la boue. Simplement, ça veut dire que si tu laisses passer une nuit, il se peut que tu aies perdu les lettres qadr. Si tu prends pas des vacances, est-ce que c'est difficile de rechercher 5 nuits dans l'année qui va t'apporter le bonheur ici-bas et dans l'au-delà? Non, certainement pas. Alors que tu passes beaucoup plus de temps à faire autre chose. Alors voilà une nuit qui va commencer, inshallah, demain soir. Puisque la nuit précède le jour. C'est du 20, demain 20 Ramadan, et après demain 21 Ramadan. Donc c'est la nuit du 20 au 21. Du 22 au 23, du 24 au 25, du 26 au 27 et du 28 au 29 qu'il faut rechercher cette nuit. Et celui qui la recherche parmi toutes les nuits, certainement ne sera pas malheureux. Et voilà Allah subhanahu wa ta'ala yani, qui nous informe et qui donne à qui veut l'opportunité d'avoir des bonnes actions, comme lui seul subhanahu wa ta'ala yani, en a décrété, et son décret est vrai. Pendant cette nuit, les anges ainsi que Jibril, Ar-Ruh, expliqué en tout cas par les savants, l'esprit, il s'agit de Jibril, alayhi salam. Ils descendent avec toute chose, ce qui va arriver dans l'année. Le cheikh Ibn Baz, quand il fasse miséricorde, il dit qu'il y a quatre types de destin. Il y a le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il a créée, c'est la plume. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, la première chose qu'il a créée, subhanahu wa ta'ala, c'est le qalam, c'est la plume, comme vous le savez. Il a dit à la plume, écrit. La plume dit, qu'est-ce que j'écris, Seigneur? Allah a dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que Allah hérite la terre et ce qu'elle contient, et cela va arriver. Ainsi, la plume a tout écrit. Ça, c'est le destin. Et ne va pas manquer quoi que ce soit de ce que la plume a écrit, parce qu'elle a été dictée par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, si la communauté entière te voulait du bien, ce bien ne te profitera que si Allah te l'avait décrété. Et si la communauté entière te voulait du mal, ce mal ne te touchera que si Allah l'avait décrété. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Il y croyait, la plume est levée, l'encre a séché. Il s'agit donc de ce livre. Il y a également le destin individuel. Qui, chacun d'entre nous, comme le dit Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, le professeur sallam a dit, le destin concernant chacun d'entre nous est fixé. Un ange chargé des matrices, comme vous le savez, hadith rapporté par Ibn Mas'ud dans le Sahih des Muslims, un ange chargé des matrices dit à Allah, bien qu'il le sache avant de l'avoir créé, lui et tout, il dit, ya Allah, voilà une fécondation. Ça va devenir ce que tu as décrété, un enfant. Et Allah dit, écrit quatre choses, parmi lesquelles, si la personne va être heureuse ou malheureuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que le destin va se réaliser. L'homme peut faire des actes qui ressemblent aux actes des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il reste entre lui et la mort, que ça, très peu de temps. Le destin va se réaliser, ce qui a été écrit va se réaliser parce qu'Allah sait. Allah est juste. Ça veut dire que la personne n'était pas sincère. Elle fait un acte ou des actes des gens de l'enfer et elle ira en enfer. Allah peut-il se tromper? Hachalillah. Bien sûr que non. Il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, ça va être ce qui se serait. Allah est juste, subhanahu wa ta'ala. Et l'homme peut faire, dit Ibn Mas'ud, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des actes des gens de l'enfer, celui que tu condamnes, que tu dois condamner, les actes que tu dois condamner, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort que très peu. Allah l'inspire, lui fait miséricorde. Je pense à celui qui a tué 100 personnes, par exemple, dans le très long hadith. Et le destin va se réaliser. Il fait un acte des gens du paradis et il rentre au paradis. Et Allah est juste. Il y a le destin qui descend tous les lettres du Qadr, toutes les nuits du Qadr, toutes les nuits de la détermination. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Chaque acte descend, ce qui va arriver jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la lettre du Qadr prochain. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ceci, et ça va arriver. Et il ne s'agit pas, bien entendu, de prévoir quoi que ce soit. Allah seul sait ce qui va arriver, le ghaib. Il a dicté aux anges qui vont l'écrire et qui vont descendre et il n'arrivera que ce qu'Allah a décrété. Ta confiance doit être totale. Allah subhanahu wa ta'ala et ta foi au destin doit être totale. Voici un hadith rapporté par nos savants Ibn Majah, Ahmad, Tabari et Ibn Habban, Abu Daoud, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ibn Al-Daylani, qu'Allah leur fasse miséricorde, a dit, Ubay ibn Ka'b, il a dit, j'ai demandé à Ubay ibn Ka'b, je suis troublé par le destin, comme beaucoup de philosophes parmi nous. Et s'il y a un libre arbitre, et comment se fait-il qu'il y ait le destin? On ne te posera pas cette question. Par contre, ce que tu diras ensuite, tu seras interrogé dessus. Je suis troublé par le destin. Et Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agré, dit, si Allah châtiait les habitants des cieux et de la terre, ce sera sans injustice. Mais sa miséricorde, certainement, sera mieux que leurs œuvres. Si tu dépensais l'équivalent du mont de Uhud, la montagne en or, fils Abilillah, il n'en acceptera, subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien, que si tu crois au destin. Tu dépenses la montagne de Uhud d'or, Allah n'acceptera que si tu crois au destin. Que si tu crois au destin et que tu sais que ce qui t'atteint ne devait pas te manquer. Si tu mourais en n'y croyant pas, ce serait l'enfer, a'oudhou billah. Le Ravi, il dit, je suis allé voir Ibn Mas'ud, Hudayfa ibn Yaman, ils m'ont dit la même chose. Zayd ibn Thabit, par qui Allah a voulu transcrire donc le Coran, il m'a dit des paroles semblables du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui confirment ce que je viens de vous lire. Le destin est, comme vous le savez, un point fondamental de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et comme il a dit le professeur sallam, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, et que tu crois au destin, que tu le considères bon ou mauvais. Pourquoi? Parce que seul le croyant y croit. Ajaban li amal mu'min. Extraordinaire le cas du croyant. Rien n'arrive au croyant que du bien. Il lui arrive une chose qu'il aime, si c'est dans le destin. Il remercie Allah et c'est le compté comme du bien. Et il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente, c'est le compté comme des bonnes actions, comme du bien. Et ça, ça n'arrive qu'au croyant, comme l'a dit le professeur sallam. Et rien n'arrive sur la terre ni dans les cieux. Ceci a fait que les meilleurs d'entre nous avaient les plus pudiques vis-à-vis d'Allah. Ils ont honte de se plaindre d'Allah. Ils ont honte par rapport à la récompense qui t'attend. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah te dit dans la sourate 39, Allah accorde aux patients une récompense sans limite ou sans jugement. Ça dépend de comment tu le traduis. Par rapport à la récompense, par rapport à la vie éternelle, l'infini, qu'est-ce que c'est le peu qui t'arrive que tu n'aimes pas? Et sache que ce que tu n'aimes pas, il se peut que ce soit un grand bien pour toi, comme Allah nous le dit. Toi, tu n'aimes pas. Et est-ce que tu ne préfères pas ce que Allah aime par rapport à ce que tu aimes? Et Allah est généreux. Si tu acceptes le destin, Allah te l'accorde. Et il y aura du bien. Allah ne fait que le meilleur. Et si tu n'acceptes pas le destin, Allah va quand même te l'imposer. Et tu n'auras que ce que tu mérites. Donc cette foi est tellement belle. Elle est tellement complète. Celui qui veut philosopher, qu'il philosophe. Il ne sera pas plus heureux que le professeur sallam. Il ne sera pas plus heureux que les compagnons du professeur sallam qui y croyaient dur comme fer. Parce que sans le destin, certainement, tu seras malheureux. Ma sœur, mon frère, tu seras malheureux. Sans la croyance ferme dans le destin, tout ce qui doit arriver va arriver. Et Allah fait sortir à cause, entre autres, de cette foi sincère en Allah, des hommes, minal mu'minina rijalun, sadaqou ma ahadullah alayh. Des hommes qui sont sincères, des femmes qui sont sincères. Ils savent que rien n'arrive sur la terre, ni dans les cieux, sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout est écrit. Cela ne veut pas dire que tu vas croiser les bras. Non, bien sûr que non. Sinon, tu serais un menteur. Sinon, tu serais un hypocrite. Allah t'a créé pour te juger. Allah t'a créé, mis devant toi des actes et des événements. Il t'a éprouvé par les gens et les gens par toi. Et donc, forcément, tu prends le droit chemin. C'est pour cela qu'il est droit. Envers et contre tout, tu deviens toujours avec un bon comportement vis-à-vis, bien sûr, d'Allah et vis-à-vis de ses créatures. Après cela, quel que soit ce qui advient, c'est déjà écrit. Allah subhanahu wa ta'ala est juste, jalla wa ala, et qu'il soit loué sur la terre, dans les cieux, ce qui est entre les deux, on ne saurait jamais le louer comme il se doit.